ce pape a écouté. Ah, il a écouté, il a entendu un cri du peuple juif envers l'Église, le cri qui est encore entendu aujourd'hui est « Où êtes-vous ou où étiez-vous pendant notre grande souffrance, pendant la Shoah ?» Le pape a été prêt à assumer l'histoire des chrétiens. Et je ici distingue l'histoire des chrétiens de l'histoire de l'Église, que les chrétiens, pécheurs comme tous les hommes, n'ont pas toujours réagi aux Juifs comme il fallait, comme c'est écrit dans l'Évangile, hein, comme Jésus. Et là, je pense que pape Jean XXIII, il a noué un lien avec le peuple juif dans ces personnes juives qu'il a connues. Il les a écoutées et cela a mené à cette révolution qui représente pour l'Église, Nostra Aetate, dans la tentative de, en fait, faire un retour aux valeurs évangéliques dans notre relation avec le peuple juif.
Et il y a aussi une autre figure très importante dans l'élaboration de cette déclaration, c'est le cardinal Béat.
Cardinal Augustin Béat, qui était un grand exégète jésuite de l'Institut biblique à Rome, et qui était vraiment la tête pensante de toutes les conséquences de cette nouvelle relation, a cherché à nouer des liens avec les personnes, avec les organisations. Lui, en fait, il a eu le souci de vouloir inviter des observateurs juifs de venir au concile, une chose qui, à la fin, n'était pas acceptée par les juifs eux-mêmes. Mais pendant ces années du concile, il était l'oreille du pape envers le peuple juif, d'écouter. Je pense que c'est très important de réaliser que la grande révolution qui a eu lieu pendant le concile, c'était un déplacement. Au lieu de parler des juifs, on a commencé de parler avec les juifs et d'écouter comment les juifs se représentent eux-mêmes, comment ils s'identifient eux-mêmes. Et ici, Cardinal Béat, sans doute, était une de ces oreilles très, très sensibles à ce qui dit le peuple juif, en connaissant extrêmement bien l'Église, la théologie. Là commence la tentative de formuler ce qui est devenu le document Nostra Aetate.
Donc vous avez dit, l'Église ne parle plus des Juifs, mais avec les Juifs. Justement, est-ce qu'il y a des Juifs qui ont été sollicités pour la participation de ce concile en tant qu'observateurs? Est-ce qu'il y a des Juifs qui ont participé même à l'élaboration du texte?
Les Juifs, c'est une réalité très, très diversifiée. C'est-à-dire, on dit très souvent, c'est les Juifs qui le disent, trois juifs, quatre opinions. Ici, une des problématiques qui a été les problématiques de cette époque et qui reste les problématiques, c'est qu'en rencontrant un juif, on rencontre un juif et non pas un pape. Dans le judaïsme, il n'y a pas une figure d'autorité centralisée. Et pour cela, chaque juif peut exprimer son opinion et les opinions ont été très, très diversifiées. Mais il faut, je pense, ici souligner le fait que certains juifs ont vu avec un très très bon œil cette initiative du pape Jean XXIII et cardinal Béat, pape Paul VI, le commencement de ce dialogue. Ils ont voulu participer. Je mentionne Jules Isaac qui a rencontré le pape avant le concile, après d'autres figures très importantes dans le monde juif, comme Nachum Goldman qui a été un des chefs des organisations juives dans le monde, Avraham Joshua Heschel, un grand théologien juif des États-Unis qui a rencontré pape Paul VI, qui a maintenu une correspondance longue et étroite avec le cardinal Béat pendant le temps du concile. Il n'y avait pas des observateurs officiels juifs, mais je pense que les gens qui ont été engagés dans l'écriture du document ont été en lien étroit avec certains juifs qui ont eu un input pour le document. Et on voit les résultats. Une des choses très, très brûlantes pour le peuple juif à cette époque, et qui reste vraie aussi aujourd'hui, c'est de trouver dans l'Église un allié dans cette lutte contre la haine des Juifs, l'antisémitisme, une idéologie moderne, mais qui a des liens certains avec un enseignement de mépris pour les Juifs et pour le judaïsme qui a été trop diffusé parmi certains éléments chrétiens dans l'histoire du peuple chrétien.
Donc parlons du texte maintenant, du paragraphe 4. Donc il y a plutôt deux grands thèmes qui se dégagent. On essaie de faire valoir le patrimoine spirituel commun au judaïsme et au christianisme. Et aussi, évidemment, on condamne fermement l'anti-judaïsme et l'antisémitisme.
Absolument. Et cela reste de base très très forte pour le dialogue jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, premièrement, nos racines. En tant qu'Église, nous sommes profondément enracinés dans la réalité du peuple juif, dans ses écritures, et ce, bien sûr, qui nous mène par là, est notre foi en Jésus le Juif. Il ne faut pas oublier l'identité juive de Jésus. Jésus qui nous sépare, mais son identité juive qui nous réunit avec le peuple juif, parce que nous sommes appelés à scruter les mêmes écritures pour trouver là le témoignage de ce Dieu commun, hein, et nous croyons dans ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a élu le peuple d'Israël pour donner au monde le Christ. Cela est notre foi, et en scrutant les Écritures d'Israël, nous nous insérons dans l'histoire d'Israël et nous apprenons, et cela est très très important, nous apprenons le langage de ces Écritures. Nous parlons le même langage, nous sommes à la même école quand ça touche le langage de l'Ancien Testament. Et bien sûr, la lutte contre l'antisémitisme, qui pour l'Église est aussi une lutte contre toutes les formes de racisme, hein, toutes les formes de discrimination. Cela est très clair parce qu'après le paragraphe 4, il y a le paragraphe 5 qui ouvre vers l'universalité de cette lutte pour qu'il ne soit plus des victimes de la haine et de la discrimination et de l'intolérance.